culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Auditrice, auditeur, te voilà de retour pour un nouveau culte espoir. Alors j'espère que tu as passé un bel été. On est toujours d'ailleurs dans ce temps de rentrée. Et j'ai avec moi dans ce studio Amandine, Stéphane.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va bien.
Nickel.
Bon, alors quand je dis rentrée, à quoi vous pensez ?
Beaucoup de boulot.
Beaucoup ouais, de travail.
Ouais, moi je suis prof, donc c'est l'année. Enfin, tu retrouves tes élèves, tu dois te remettre dans les cours, voilà.
Bon, c'est plutôt positif quand même.
Ouais, ouais, non, c'est cool.
Bon.
C'est cool, mais c'est intense.
Et toi,
ça recommence.
Et toi, rentrée ?
Alors, j'ai encore la tête dans les vacances, mais rentrée, j'ai pas très envie d'y penser tout de suite, tout de suite. Ça va vite arriver.
Ouais, tu m'étonnes.
Alors, pourtant, on parle de la rentrée, hein, mais j'ai l'impression qu'on a encore un petit air de vacances par ici, non ?
Mm-hmm.
Il flotte dans ce studio, cher auditeur, un petit air d'Italie. Eh oui, parce que nous accueillons aujourd'hui un invité dont le bel accent italien n'est plus à démontrer. Bienvenue, Corrado Cosi.
Ciao a tutti.
Allora, on est content de te recevoir.
Merci.
Pour un deuxième culte que tu nous partages en tout cas, est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots pour ceux qui ne t'auraient pas encore entendu ?
Oui, bon, je suis un pasteur, d'accord. Maintenant, je suis pasteur de l'église de Fribourg et le groupe des Romans. J'étais pasteur en Italie pendant 7 ans et après j'ai vécu, disons, un peu de temps dans l'administration de l'Église au niveau national et international. J'étais directeur de la jeunesse, aussi de la communication, de l'éducation. Ici, au niveau international, j'étais aussi responsable d'un ministère tout à fait nouveau. C'est le ministère pour les handicapés, pour les insérer dans l'Église et aussi pour parler d'eux, qu'on parle très peu. Et en plus, je suis nonno. Donc, 4 enfants qui me rend vraiment heureux. Ça, c'est important.
C'est papy.
Papy. Il m'appelle nonno et quand il appelle nonno, moi je m'arrête.
Tu fonds. Hein.
Ouais, c'est ça.
Trop chaud.
C'est mignon. Super. Quel thème tu vas nous présenter aujourd'hui ?
Je vais te présenter un thème qui n'est pas populaire. D'accord ?
D'accord.
C'est, oui, c'est... Souvent, il nous arrive des malheurs, des difficultés, des défis. Et souvent, on est tenté de donner la faute à d'autres. Quelque chose qui nous a malheureusement, introduit dans cette difficulté où nous sommes. Nous devons être conscients que pas mal de fois, la faute, c'est à nous. Et nous devons la reconnaître.
D'accord, donc prendre ses responsabilités.
Exactement.
Oula. Alors, ça m'interpelle. Hein. À suivre. Bon, bah alors Amandine, prête pour démarrer ce culte avec nous ?
Allez, c'est parti. Alors, pour parler de tout ce que tu as prévu de nous parler, Corrado, tu nous proposes d'aller explorer un livre de la Bible qui s'appelle Habacuc, c'est le nom d'un jeune prophète, qui a parlé avec Dieu, qui a donc prié avec beaucoup de franchise pour lui parler de toute la violence, tout le malheur qu'il voit autour de lui et pour demander un peu des comptes à Dieu. Hein. La promesse du coup que j'aimerais te partager vient du livre de Habacuc au chapitre 2, le verset 1 et le tout début du verset 2. Donc je te le lis, Habacuc dit « Moi, je vais rester à mon poste de garde, j'attendrai comme un guetteur sur le rempart pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. » Et le début du verset 2 commence par « Le Seigneur me répondit. » Ça, c'est une sacrée promesse. Nous allons passer ce culte à explorer des facettes de cette promesse, une promesse d'un Dieu qui accepte et veut même rentrer en dialogue.
Donc cette semaine, ce sujet m'a beaucoup travaillé, j'ai pas mal réfléchi comment je pouvais aborder la chronique Dieu de ma semaine. Première étape, je vais lire le livre d'Habacuc.
Comme nous tous.
Mais où se trouve le livre d'Habacuc ?
Ah.
Vieux Testament, Nouveau Testament, je sais pas, c'est pas le livre que j'ai l'habitude de lire. Je pense que plusieurs personnes n'ont pas l'habitude de lire ce livre. Mais je lis plus les évangiles, les psaumes, Genèse, j'aime bien la Genèse, donc voilà. Mais j'ai dit, ça me dit quelque chose ce livre-là, parce que j'ai entendu dans les cultes, dans les choses que je vois et je lis. Donc j'ai dit, Vieux Testament, ouais, j'ai trouvé. On trouve bien dans le côté où il y a les petits prophètes, beaucoup de petits prophètes, donc c'est bien le cinquième livre avant la fin. Donc c'est là que tu vas trouver.
Avant la fin de l'Ancien Testament.
Avant la fin de l'Ancien Testament.
Okay.
Après l'avoir trouvé, je commence à lire Habacuc. Donc, il n'a que 3 chapitres, donc c'est facile à lire très rapidement. C'est un prophète, comme Amandien dit, n'hésite pas à parler de Dieu, le questionner. Quelqu'un qui pose beaucoup de questions et a vraiment besoin de comprendre. Sincèrement, je me suis mis à la place d'Habacuc, parce que j'aime bien comprendre les choses. Donc, je pose des questions. Pourquoi ? Vraiment, j'essaie de comprendre. Et quand on pose beaucoup de questions, on veut avoir une réponse. Et je pense que je ne suis pas le seul. Quand on pose une question, on veut une réponse. Et de temps en temps,
t'en as pas.
Et là, ça m'énerve un petit peu, on va dire.
Un tout petit peu.
Tu n'es pas le seul, hein, t'inquiète pas.
Parce qu'on veut savoir oui ou non. Même de temps en temps, la réponse qu'on a, on n'est pas du tout d'accord, mais au moins, c'est une réponse. Et j'ai vécu ça dans ma situation. Là, je vis ça. Ça s'est un peu amélioré maintenant, mais j'ai vécu ça. C'est que je travaille sur un projet entier. Un continent, hein, avec des gens d'autres continents, et ils ne travaillent pas la même chose que nous.
Ah, vous travaillez différemment.
On travaille différemment.
Okay.
C'est culturellement différent, mais ouais. Voilà, il faut qu'on s'adapte. Et je pose beaucoup de questions sur ce projet. Et je n'ai pas de réponse.
Oh, tu dois être frustré.
Oui.
On voit dans ton regard, là, quand tu me dis.
Je pose des questions, et je deviens presque un râleur, parce que je pose des questions, je dois me plaindre peut-être avec mon chef, ils ne répondent pas, voilà. C'est compliqué, et parfois, je dois prendre vraiment des initiatives, parce que je n'ai pas de réponse, je commence à travailler. Mais parfois, ce n'est pas les bonnes initiatives, donc je dois assumer les conséquences ou revenir tout sur le travail que j'ai fait, je dois revenir en arrière. Donc c'est, voilà, j'assume mes choix. Mais puis, depuis quelques jours, la communication va beaucoup mieux, ils me répondent assez rapidement, donc le projet peut aller beaucoup mieux. Mais ce que je peux voir avec cette expérience, aussi le livre d'Habacuc, c'est que parfois, c'est difficile d'attendre. Et aussi, peut-être, on peut vraiment être à l'heure. Mais avec Dieu, on n'est pas à l'heure. Au contraire, il veut qu'on vaille vers lui, qu'on veut s'intéresser, on veut comprendre. Et Dieu, c'est toujours là, avec nous, tout le temps. Parce que c'est ça qui est vraiment merveilleux, c'est qu'il ne nous laisse jamais. Il est là, toujours.
Alors, tu es au Culte Espoir, cher auditeur. Alors, place à la louange en musique, une chronique qui te fait souvent découvrir de nouveaux artistes. Notre thème du jour m'a fait penser à un chant de Mimi Kosiali. Il a pour titre « Tu règnes » et il nous rappelle que dans toutes les saisons que nous vivons, dans les joies, dans les questionnements aussi, en tout temps, Dieu reste le maître des situations.
Tu règnes, même dans mes jours sombres, quand la crainte me fait de l'ombre. Mon Dieu, tu règnes, mon Dieu, tu règnes, dans mes peurs et mes peines, quand la douleur se réveille. Mon Dieu, tu règnes, chante.
Dieu, tu règnes, même dans mes jours sombres, quand la crainte me fait de l'ombre. Mon Dieu, tu règnes, mon Dieu, tu règnes, dans mes peurs et mes peines, quand la douleur se réveille. Mon Dieu, tu
Alors si tu le crois, chante ce refrain avec moi maintenant. J'élèverai
le nom de Dieu à chaque instant, de Dieu à chaque instant,
dans les bons, les mauvais
dans
temps. J'élèverai le nom. s'ouvre devant moi.
Dans la même veine que le chant que nous venons d'écouter, voici celui de Jean-Marc Reynaud, « Ses promesses ».
Trop de déserts tu as traversé, devant toi une montagne s'est dressée. Pourtant tu as adoré le ciel, pour toi il ne s'est pas ouvert.
Souviens-toi.
promets, mon Dieu le fait, tout ce qu'il promet, mon Dieu le fait, tout ce qu'il promet, mon Dieu le fait, tout ce qu'il promet. Qu'il promet, mon Dieu le fait, tout ce qu'il promet.
Corrado, à toi la parole pour le partage biblique, merci.
Merci, oui. Je pense que tu es d'accord avec moi que... Il est indéniable que nous vivons actuellement une tension aux proportions insolites. Nous sortons à peine d'une pandémie, mais nous avons maintenant une situation de guerre aux portes, là, tout à côté. On a des inondations cet été qui est incroyable. Je n'ai jamais vu une chose pareille, surtout ici en Suisse. Des intempéries, des incendies aussi. C'est incroyable, beaucoup. Il y a des personnes qui sont mortes, même des enfants. Mais des enfants. Il y en a de partout et pour tous. Et j'ai eu l'occasion de parler avec, bien sûr, des collègues, des amis. Donc, on a un peu entamé la discussion, mais... Et Dieu, il ne peut pas intervenir. Ceux qui connaissent la Bible connaissent que Jésus, il avait, bien sûr, bloqué une tempête. Deux fois, il avait, bien sûr, fait comprendre qu'il est le maître de la nature. Alors ça, c'est presque, disons, évident. Mais Dieu, pourquoi il fait silence? Alors, cette dynamique de s'en prendre à Dieu pour les malheurs qui nous arrivent, ou peut-être pour les silences qu'il adopte, a inspiré un prophète de la Bible. C'est Habacuc, un jeune prophète de la Bible. Habacuc, c'est un homme, un jeune, qui a vécu autour de 600 avant Jésus-Christ et qui s'est posé la question. Et au début du premier chapitre, c'est présenté comme cet homme qui est angoissé parce que quelque chose arrive et il ne comprend pas pourquoi. Il ne comprend pas pourquoi le Seigneur n'intervient pas. Les questions qu'il pose sont très simples. Mais pourquoi et jusqu'à quand? Et je pense que ce sont des questions que toi aussi tu t'es posées, face à des difficultés que tu as vécues. Il faut dire, oui, on a la foi, d'accord, on sait que Dieu, ce n'est pas le responsable, le coupable, etc. Mais il y a un moment où on s'arrête et on dit, mais alors, tu es où? Pourquoi ce silence? Je veux lire tout simplement le texte, Habacuc 1, 2, 4. Jusqu'à quand, l'Éternel, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'écris vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-je tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? C'est fort, hein? C'est fort ce qu'il dit. Ça, c'est une dénonciation. Il faut dire que Habacuc, c'est le seul prophète de toute la Bible que, à la place de parler au peuple de la part de Dieu, il fait le contraire. Bon, il parle, lui, à Dieu directement. Et il questionne Dieu. D'accord?
C'est osé quand même. C'est peut-être parce qu'il est jeune aussi qu'il a un peu cette nègre.
Laissez-moi dire, c'est pour ça que je me retrouve un peu avec ces prophètes, parce que moi aussi je questionne Dieu. Je ne sais pas toi, mais ça m'arrive. Et ces deux questions, pourquoi et jusqu'à quand, sont des questions qui nous sommes tous posées dans nos moments difficiles. Pourquoi je souffre alors que je fais les choses correctement? Jusqu'à quand vais-je continuer à vivre seul? Donc, Seigneur, je t'avais demandé, mais tu n'as pas répondu. Pourquoi on me veut du mal alors que je n'ai rien fait? Pourquoi je dois supporter la mort de mes proches, etc. Bon, tu as bien sûr la liste des questions, tu les as déjà posées. Et Dieu, où est-il dans nos questionnements? Ça, c'est la question. Est-il conscient que nous avons du mal? Est-il conscient que nous doutons? Est-il conscient que nous avons des angoisses? Et dans ce texte d'Habacuc, nous voyons que le Seigneur prend le temps de répondre à Habacuc. C'est comme si le Seigneur, il, bien sûr, savait qu'Habacuc allait le questionner, allait poser ses questions, et il prend du temps. Il attend. C'est comme s'il invite même à insister. Parce qu'il veut donner la réponse et pas une réponse. Quelqu'un pourrait penser que c'est irrévérent de questionner Dieu. Mais non, mais c'est Dieu même qui l'a dit. Mettez-moi à l'épreuve. Combien de fois Dieu l'a dit, hein? D'accord. Et Dieu entend nos questionnements et veut nous aider à travers nos souffrances à nous aider à comprendre. Bon, je ne veux pas dire que Dieu t'envoie les souffrances pour que tu puisses mieux connaître, le connaître ou bien mieux, bien sûr, entrer en bon rapport avec lui. Non. Dans la Bible, on trouve bien que le Seigneur, quand même, il est capable de limiter les souffrances que nous vivons. Parce qu'il nous connaît, il nous aime. Sûrement, tu as vécu comme Habacuc des moments difficiles, des souffrances, des grands questionnements, ces moments qui te poussent à remettre en question aussi la présence de Dieu dans ta vie. Et je peux dire qu'il n'y en a pas de monde que j'ai rencontré, qu'à la fin, ils m'ont dit, mais je ne vais pas dire que je ne crois pas plus en Dieu, mais je me pose la question, pourquoi ce silence? Et la question, c'est que tu ne te sens pas responsable des malheurs qui t'accablent. Point. Il y a un facteur que nous oublions souvent. C'est une attitude que personnellement j'ai définie la syndrome d'Adam. Hmm.
Hein? Qu'est-ce que c'est que ça?
Syndrome d'Adam. Ah bah il a dénoncé Ève quoi. C'est pas moi qui ai pris.
Non, pas seulement parce que disons que Adam accuse la femme que Dieu lui avait donnée.
Hmm. Ah,
qui a accusé?
Ouais.
Qui a accusé Adam? Et Ève accuse le serpent qui était à côté. Donc, c'est comme dire, c'est toujours la faute à l'autre. Ça, c'est ce que j'appelle la syndrome d'Adam. La faute à l'autre. Dieu répond à Habacuc. Hein. Je dis tout à l'heure que Dieu a pris du temps, d'accord. Et Dieu répond à Habacuc, mais pas dans le sens que Habacuc s'attendait. Dans le premier chapitre, on trouve une longue, disons, réaction de la part de Dieu pour donner à Habacuc quand même des outils, des sujets, des thèmes pour comprendre que si le malheur arrive, Habacuc sache que la faute c'est à vous. Et donc on lit que dans le premier chapitre, on lit que Dieu fait arriver les fameux Babyloniens pour conquérir Israël. Je pense que tout le monde connaît, que tu connais aussi la fameuse captivité babylonienne. Donc les Juifs ont été déportés. Et on se demande, mais pourquoi? Et la réponse était très simple. Beaucoup de prophètes, ils le disent clairement. C'est à cause de votre comportement, dit Dieu. Donc Dieu répond à Habacuc et dit, Tu me questionnes parce que je suis en silence face à l'injustice. Ben, sache une chose d'abord. Je ne suis pas en silence, mais ce qui vous arrive, c'est parce que vous n'avez pas suivi ce que je vous avais commandé. Et je pense que c'est un peu la loi de cause et effet. Bon, attention, hein, je ne veux pas faire ce résumé général, généraliser un peu, parce qu'il y a quand même pour chacun de nous, de toi qui tu m'écoutes, il y a des exemples, des épisodes qu'ils t'ont touché de près, et donc ce n'est pas une généralisation. Peut-être tu as vécu des expériences très dures. Très dures. Si on explore cette réponse de Dieu, on se rend compte qu'il s'agit d'une réplique au comportement dysfonctionnel de ce peuple. Alors, admettons-le souvent. On n'est plus enclin à chercher des excuses qui justifient nos comportements plutôt que de reconnaître notre responsabilité. On pense à la malchance, à quelqu'un qui nous a distrait ou qui nous a mal conseillé. Et rarement, on dit « ce qui vient de m'arriver, c'est ma faute. C'est la conséquence de mes choix. » Point. Tout simple. Peut-être on peut être blessant, on peut se découvrir finalement vraiment limité. Et donc, ça fait aussi une réaction de rage parce qu'on voudrait quand même s'en prendre avec quelqu'un. Parce que comme ça, on résolut un peu la difficulté qu'on a de reconnaître qu'on est en train de vivre une difficulté. Mais c'est la faute à personne. C'est la faute à toi. Et sans le vivre comme une accusation. Non, c'est tout simplement réaliser que, oui, c'est la réalité. Alors, dans dans ces chapitres, les premiers chapitres, il y a quand même un facteur qui nous rassemble un peu, nos corps. Parce que le prophète réagit au fait que le Seigneur, bien sûr, a présenté la question de cause et effet. Vous avez commis des fautes et maintenant, c'est à cause de vous que vous vivez tous ces malheurs. Mais Habakkuk, et là j'aime Habakkuk, c'est un jeune qui vraiment a envie de ne pas, bien sûr, comment dire, accepter du coup c'est la réponse que Dieu lui donne. Il dit tout simplement, ta réponse n'a aucune logique.
Effronté, va. C'est intéressant.
Dis comme ça à Dieu. Non, ta réponse n'a aucune logique. La manière dont tu gères mes problèmes ne me satisfait pas. Parce que je souffre et je me sens seul alors que je ne l'ai pas mérité. Mes proches souffrent et ils ne l'ont pas mérité. Ça, c'était la pensée de Habakkuk. C'est ça, c'est ta pensée.
Tellement logique, oui, bien sûr.
C'est logique, hein, mais c'est ta pensée. Tu ne peux pas venir et dire, c'est ta faute. Combien de fois nos parents, face à ce qui nous est arrivé, c'est toi qui l'as voulu. D'accord? Alors, nous sommes confrontés face à une question qui est très importante. Est-ce que nous arrivons à comprendre que nous sommes responsables de ce qu'il arrive? Alors, Dieu a bien compris quel était le problème d'Habakkuk et enfin, il lui donne la réponse que nous tous nous attendons.
Ta-ta-ta-tam.
Le Seigneur, il dit tout simplement, le juste vivra par sa foi. Point. Oh, quelle est l'originalité de cette réponse? Ben, c'est très simple. C'est que on devient juste, on est juste, parce qu'enfin, nous reconnaissons que Dieu peut tout, c'est pas sa faute, son silence, c'est un silence d'éducation, il attend bien sûr le moment pour répondre, pour donner la bonne réponse, et il nous demande d'avoir foi en lui. Vous savez, dans le texte, il est écrit comme ça, finalement il est écrit « Mais la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Vous savez, je découvre que finalement, ces prophéties de Habakkuk d'il y a beaucoup d'années, c'est pour nous. Parce qu'elle parle d'aujourd'hui. Parce que nous aussi, nous posons ces questions. Bon, personnellement, pour ce qui m'arrive, mais en général, tout ce qui est autour de nous, Seigneur, alors, quand est-ce que tu interviens? Et combien de fois tu as prié en disant, Seigneur, reviens bientôt, parce qu'on n'en peut plus. Et alors, pour conclure, la question pourrait être, oui, d'accord, Seigneur, dit Habakkuk, tu as raison, je reconnais, ma foi fait la différence. C'est ma foi qui fait la différence. Et s'il y a quelqu'un qui demande, mais où est Dieu? Alors, lui dit tout simplement Habakkuk, l'Éternel, verset 20 du chapitre 2, l'Éternel, lui, est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Mais je le trouve d'un respect extraordinaire. Le Seigneur nous demande de nous faire du silence. Ce n'est pas lui qui fait silence, mais nous, parce que nous, toutes les fois que nous réagissons, nous ne sommes pas dans la bonne direction. Et alors, comme disait encore Habakkuk, où est-ce que je peux trouver les boutons? Parce que moi, je cherche les boutons. Hein. La souffrance est là, mais je cherche les boutons pour la calmer. Et Habakkuk, il a trouvé les boutons. Parce qu'il a dit dans le deuxième chapitre et aussi dans le troisième chapitre, seul le Seigneur est ma force. Et alors, rappelle-toi que le seul endroit où tu peux trouver Dieu, quand tu le cherches, un refuge sûr, c'est dans ta foi. Thank you.
auditeur, chère auditrice, tu te trouves au culte espoir. Nous venons d'écouter Corrado qui nous a partagé une réflexion sur le fait d'assumer nos responsabilités. Finalement, quand est-ce qu'on est responsable, pas responsable? Où est-ce qu'on met Dieu là-dedans? Où est Dieu là-dedans? Nous savons, Corrado, que c'est un sujet qui te parle personnellement pour l'avoir vécu dans ta vie. Hein. Ce n'est pas que de la théorie. Alors, on t'a proposé d'avoir l'espace pour nous partager ton témoignage dans ce Dieu agit que tu as accepté de faire. Merci beaucoup. Alors, j'ai appris que tu aimes voyager, tu aimes parcourir le monde, tu es même allé en Australie, c'est bien ça?
Absolument, oui. Mais pourquoi j'étais en Australie? Parce que ma famille habite en Australie.
D'accord. Et donc, je crois que cette fois-là, c'était un événement spécial.
Oui, moi, je visitais mes parents pas souvent. Ils sont partis il y a 43 ans et c'est difficile d'aller en Australie pour rester le temps des vacances. Mais donc, on a fait une surprise à mon père qu'il a 7 ans, il a tourné à, comment dire, à 80
ans. Il venait d'avoir 80 ans.
Il venait de 80 ans. Oui, d'accord. Et on voulait organiser une fête qui pratiquement marquait le moment, d'accord. Et donc, moi et ma femme, nous sommes partis, nous sommes arrivés là à Melbourne et avec mes frères, on a organisé une semaine dans une des îles les plus belles au monde.
Oh, incroyable.
Oui, les îles de Hamilton Island.
Vous étiez en bateau du coup? Comment ça se
passe? Non, on est arrivé en avion jusqu'à
l'île.
Non, pas à l'île. Oui, jusqu'à l'île, tu as raison. Okay. Jusqu'à l'île. Donc là, on a pris des petits cœurs et donc on a loué une villa, donc une maison. On était une quinzaine. C'est pas beaucoup de monde. Hein. Et donc, on a commencé cette semaine magnifique. Et là, devait être un peu, comment dire, vraiment le cadeau pour mon père. Et le dernier jour, c'était la cerise sous les gâteaux. Alors, on est allé à faire du snorkeling.
Du snorkeling,
c'est de la masque et tuba, c'est
exactement,
ça, hein?
Ouais. C'est de l'exploration de la mer. Donc,
sur un bateau.
En surface,
Okay.
D'accord. Alors, on est parti avec un bateau. On est arrivé sur une des îles, parce que les Hamilton Islands sont pas mal d'églises.
Pas mal d'îles.
Je suis pasteur. Pas mal d'îles. Et donc, là, on est arrivé. Et les capitaines nous a bien sûr donné des consignes et il nous a dit clairement où aller et finalement aussi il nous a dit quoi faire. Il nous a donné des conseils.
C'était
aussi.
Quoi les conseils de base?
Alors de ne pas aller descendre vers les sud, mais d'aller vers les nord du bateau, donc face au bateau et pas derrière. Mais moi je ne comprends pas l'australien. L'anglais, oui, mais pas l'australien.
C'est vrai que c'est un accent particulier.
Oh là là, oh là là. Ouais. Et j'ai fait cette confiance à mon père, qui était à côté de moi, donc qui devait comprendre l'australien. Donc, alors, on s'est habillé et on cherchait le gilet
de sauvetage.
Des sauvetages. Hein. Ouais. Et on a vu que deux japonaises étaient là et qui étaient en train de prendre les nôtres. Alors, nous, en italien, qu'est-ce qu'on fait? On ne laisse pas les gilets à deux dames? Ben aussi, pas seulement les Italiens le font, mais d'accord. Et alors, on a dit, OK, on le laisse. Alors, vu que nous sommes tous les deux donc, de bons nageurs, scuba dive tous les deux, mon père, il a fait pas mal des fois la plongée, etc. Donc, on est descendu sur la mer.
Mais c'était problématique, parce que ça faisait partie des consignes, c'est ça, d'avoir les gilets?
Absolument. D'accord. Mais on a dit, d'accord.
OK.
Et alors, on est parti dans le mauvais sens. On est parti. Moi, je ne savais pas.
Ah mince, ça commence déjà mal.
Ah oui, moi, j'avais un GoPro, donc avec moi, et une tortue, on dit. Hein.
Une tortue
arrive là, devant nous, et moi, on est en train de la suivre.
Okay. Ah, mais la GoPro pour filmer, quoi.
Pour filmer, bien sûr. Donc, mon père était à côté de moi, d'accord? À côté de moi. Et à bout d'un certain moment, mon père a dit, je suis fatigué. Ah. J'ai dit, ah papa, attention. Tourne-toi, ça c'est la consigne, hein. Tourne-toi. Il s'est retourné sur ses épaules, exactement, et après il a enlevé les masques. Ça c'est le mauvais signe. Alors j'ai appelé tout de suite le secours qui est arrivé, mais il a mis 3 minutes. 3 minutes c'est rien.
C'est super long quand t'es dans l'eau.
Alors j'ai soutenu mon père qui n'arrivait plus parce qu'il était fatigué, et je l'ai soutenu avec mes palmes. Donc 3 minutes.
Là on te voit dans le studio, t'as les mains en l'air en train de porter en fait ton père dans l'eau, quoi.
Tu vois mon père? Ouais. Il est lourd, hein. Ouais. Bon, l'eau quand même. Et alors,
c'est un adulte, quoi.
Oui, bien sûr. Les secours arrivent. Il prend mon père, mais pas moi.
Ouais.
Et moi, j'étais tellement fatigué.
Ça t'avait fatigué.
Je me suis évanoui directement dans l'eau. Oh,
mais si tu t'évanouis dans l'eau, c'est-à-dire que tu as coulé, en fait.
J'ai coulé.
En fait, tu t'es noyé.
Je me rappelle même pas. Parce que je me rappelle qu'à un bout d'un certain moment, mon frère était à côté de moi, il m'avait pris son bras dans mon cou, comme on doit faire, et il m'a porté directement sur le bateau.
Attends, j'ai loupé une étape. C'est-à-dire que toi, tu étais en train de couler, ton frère a vu que tu étais en train de couler, et il a...
Non, il ne l'a pas vu.
Non, il n'a pas vu. Il a juste vu que tu n'étais plus là.
Il a vu que je n'étais plus là, il a nagé le plus vite possible.
Et il a plongé juste au bon endroit pour te trouver, quoi.
Comment tu l'appelles, ça?
C'est un miracle.
Et alors, il m'a pris... Je dis rien de plus. Hein. Il m'a pris. Et donc, je suis arrivé sur le bateau. J'ai respiré deux bouteilles d'oxygène. Et le capitaine, il a vu que j'étais vraiment en difficulté. Il a laissé tout le monde, une quarantaine de personnes sur la plage. Et il m'a amené directement sur l'île, l'autre île. Il n'y avait pas d'hôpital. Donc,
pour que tu aies accès aux soins.
Oui. Et quand je suis arrivé, ils ont fait tout de suite une analyse. C'était un problème énorme au cœur. J'ai eu un takotsubo.
Je ne sais pas ce que c'est.
Voilà. Takotsubo, c'est une syndrome, on l'appelle la syndrome du cœur brisé. D'accord ? Et je dois dire que j'étais mal mis. Hein, d'accord ? Pourquoi ça s'appelle Takotsubo ? Parce que enfin a été découvert par un médecin japonais. Et le Takotsubo, c'est une petite amphore pour prendre les poulpes.
D'accord ?
Mais la forme du cœur.
Okay.
Alors, il a appelé comme ça, Takotsubo. On la connaît maintenant, la Takotsubo, cette syndrome du cœur brisé. Et alors, je suis arrivé là, ils m'ont fait des analyses. Je devais partir directement de l'île et arriver sur le continent. Donc, ils ont appelé l'hélicoptère, un protocole énorme, long. Hein. Je suis arrivé directement à l'hôpital, ils étaient déjà prêts. Parce que j'étais en danger. Ils ont tout fait, les analyses qu'il fallait faire. Ils m'ont mis, comme on dit, en sécurité. Okay. Et quelque chose s'est passé, parce que finalement, ils m'ont mis en sécurité. Mais les jours après, quand ils ont fait l'intervention, ils ont dit, « Monsieur Kotz, si vous avez un takotsubo assez, assez grave, maintenant, il faut faire attention. » Et j'ai compris que je commençais un nouveau...
nouvelle vie, quoi.
Une nouvelle vie, ouais. D'accord. Alors...
Tu fais le lien, toi, du coup, entre ce qui t'est arrivé, donc quand t'as coulé...
Oui.
Et ta condition de cœur, en fait. Il y a un lien direct entre...
Exactement,
deux,
parce qu'après, je suis retourné en Europe, donc en Suisse, et j'ai rencontré mon cardiologue qui a fait toutes les analyses, et il m'a dit tout clairement, « Monsieur, je dois vous dire que oui, ce que vous avez vécu, c'est assez grave, donc... vous êtes un cardiopathe, on dit comme ça, hein, à toujours, d'accord. Et il faut maintenant que vous suivez des thérapies et c'est important que vous le faites.
Et alors, c'est quoi le lien que tu fais entre ce que tu viens de nous partager et puis ton message?
C'est que l'année dernière, j'étais en Australie parce que, pour d'autres raisons, c'est ma maman qui a l'Alzheimer et je voulais la rencontrer avant qu'elle ne me reconnaisse plus. Donc, je suis allé là-bas. Et mon frère, il a organisé une visite au ce qu'on appelle la barrière coralline.
La barrière de coral.
La barrière de coral, ouais, non? Il m'a dit, viens, on va ensemble. J'avais peur, tellement peur.
Bien sûr.
Ah, bien sûr. Alors, il m'a aidé finalement à dépasser cette peur. Et j'ai été, bien sûr, j'avais annoncé que j'étais cardiopathe, donc... réaction à ce qui m'arrivait, c'est que j'ai peur de l'eau. Moi, j'avais jamais eu peur de l'eau. J'ai peur de l'eau et je ne peux pas aller où vont les autres. Donc, on est arrivé là sur la plateforme et tout le monde partait à visiter. Moi, j'étais là autour avec un médecin qui me regardait tout le temps.
Puis, il me semble que ton frère t'a dit quelque chose.
Eh bien, c'est là le problème. C'est que quand on était de retour de cette belle promenade sur l'eau, mon frère m'a dit, Corrado, je dois te dire une chose. Le capitaine était fâché contre toi parce que tu n'as pas écouté les consignes. J'ai dit, mais bon, d'accord, mais papa, mais non, mais pas papa. Le capitaine avait dit de ne pas aller dans cette direction. Oh, je ne savais pas, j'ai dit. Mais en plus, il avait dit de mettre les gilets de sauvetage. J'ai dit, mais écoute, enfin, oui, d'accord, j'ai dû le mettre, mais c'était les deux Japonais qui l'avaient. Il a dit, non, c'était moi qui les avais pour vous. Et je vous avais dit de m'attendre. Mm. Tu n'as pas écouté mes consignes. Et maintenant, tu es comme ça. Alors, je ne vais pas être pathétique, mais maintenant, j'ai un peu peur de l'eau. Je dois prendre des médicaments tous les jours. Je dois faire des visites régulières chez les cardiologues. En plus, j'ai une machine, petite machine. J'ai un petit microchip sous le cœur qui il y a un petit monitorage, etc. Et bien sûr, je dois dénoncer toutes les fois que je dois aller n'importe où.
Donc, tu dois annoncer ta situation. Qu'est-ce que tu as envie de, pour conclure ton témoignage, qu'est-ce que tu as envie de transmettre finalement aux auditeurs?
Je voudrais dire, oui, j'ai essayé de trouver des justifications à ce qui m'arrivait. D'accord? La faute, c'est à mon père. Parce que finalement, c'est lui qui s'est tourné et donc il ne devait pas. La faute, c'est aux Japonais. Parce que finalement, ils ont pris mon gilet. La faute, c'est... bon, d'accord, je ne comprends pas l'Australien. Vous savez combien de justifications on trouve?
Bien sûr.
Et mon frère m'a dit, moi, je t'avais dit de m'attendre et j'avais les gilets pour toi. Donc, la faute, c'est seulement à toi. Bon, ce n'est pas une accusation, mais c'est une reconnaître. Et ça, quand Dieu me l'a dit l'année dernière, j'étais vraiment, vraiment mal à l'aise. Parce que quand tu trouves quand même qu'il y a une justification, que quelqu'un, finalement, t'a fait ce que t'as fait, bien sûr, peut-être tu es un petit peu soulagé, même si tu as le problème. Mm-hmm. Mais quand c'est complètement ta faute, complètement, 100%, ça, tu réagis différemment. Bon, maintenant, je l'ai accepté, c'est passé déjà une année. J'en souffre relativement.
Et tu le partages à la radio, merci pour cette confiance.
Parce que c'est une réalité. Quand je dis, le Seigneur a dit attention parce que tu as des responsabilités, eh bien, moi je l'ai vécu sous ma peau. Hein.
Merci pour ce partage.
Je vous propose de poursuivre la réflexion dans la chronique « Et toi, ça te parle ?» du témoignage aussi. Hein. On va tous profiter de ces deux moments qu'on a eu avant. Je commence par Marina. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans le partage biblique et aussi dans le témoignage?
Alors, ce prophète Habacuc, ce jeune prophète, questionne Dieu face au désastre qu'il rencontre hein, finalement avec son peuple dans le quotidien. C'est quelque chose d'assez terrible hein, quand on lit ces chapitres. Et puis tu disais, Corrado, que Dieu lui dit finalement, en réalité, tu payes les conséquences de ou en tout cas, tu dois prendre les responsabilités de ton peuple, finalement, de ce qui s'est passé, peut-être les générations aussi précédentes hein, qui n'ont pas suivi les voies de Dieu. Puis je me disais, mais peut-être préciser aussi à nos auditeurs, on a un Dieu qui est malgré tout plein d'amour, mais est-ce que c'est un Dieu qui punit? Est-ce que c'est un Dieu qui nous veut finalement un peu du mal, même si pour nous faire comprendre les choses? Enfin, comment est-ce qu'on peut comprendre tout ça? Et c'est vrai que moi, j'avais un peu une image de me dire, mais je suis conscient qu'on est accompagné par un Dieu qui est plein d'amour et j'arriverai pas, en tout cas, à le percevoir comme un Dieu qui veuille vraiment me faire payer les conséquences des actes que j'ai commis ou autres. Et donc, du coup, j'ai souvent cette image d'un parapluie, en fait, de Dieu qui me dit, écoute, viens, si tu suis mon chemin, t'es sous ma protection, t'es sous ce parapluie, puis t'as pas la pluie qui vient t'attaquer, t'as rien, y a pas les orages, t'es un petit peu couvert, quoi. Et puis finalement, dans la réalité de nos vies, on fait des petits pas de côté quand même, parce qu'on a envie d'être un peu autonome. Et puis là, finalement, Dieu, il ne peut plus tout à fait, parce qu'il respecte nos choix, hein, notre libre arbitre, donc il ne va pas déployer son parapluie dans tous les sens parce qu'il veut absolument tout le temps nous protéger. On doit aussi apprendre finalement les conséquences de notre vie sans lui. Et c'est un petit peu comme ça que je le comprends finalement. Hein. C'est sortir de la protection de Dieu. Ça m'amène à toutes ces conséquences, à tous ces désastres parfois que je dois porter ou que je porte parce que mes aïeux ont fait certains choix et puis je suis encore impliquée dedans. Ça, c'est un premier éclairage que je trouvais intéressant. Et puis le deuxième point que t'as, ce questionnement de se dire, mais où est Dieu ? Dans mes questionnements, est-ce que je l'invite tout au long de mon questionnement quand je suis pas d'accord avec lui, quand je comprends pas les choses? Et je crois pas que j'invite Dieu tout le temps en fait. J'ai des premières questions où je vais m'approcher de Dieu quand je comprends pas quelque chose. Et c'est vrai qu'assez vite, mon caractère un peu indépendante me mène à continuer mes questionnements toute seule. Et mes ruminements, on va dire comme
bon.
Ça.
Le début
voilà.
Était bon, faut continuer.
Le début était bon. Et je me dis, finalement, ce petit jeune Habacuc, il n'a pas lâché Dieu, mais sur tous ses questionnements, tout son cheminement, finalement. Et Dieu est intervenu quand même à un moment donné, en lui donnant des réponses. Et peut-être que parfois, moi, je ne m'attends plus en fait, aux réponses de Dieu, parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai peut-être pas envie non plus de connaître ses réponses, ou parce que j'ai déjà réfléchi à quelque chose qui me plaît plus et puis je veux couper. Donc ça m'interpelle, ça.
Il y a une tension, je trouve, en tout cas moi je l'ai perçue comme ça, entre les fois où en fait on vit des trucs, tu vois, ce Habacuc, là tu en as parlé, il n'a pas fait, enfin il n'est pas responsable de ce qu'il reproche à Dieu, tu vois là.
Au contraire, parfois il est hyper fidèle.
Voilà, c'est ça. Lui, il dit « Oh, là, il se passe plein de trucs, là. Tu fais quoi ? Moi, j'ai rien fait. » Et du coup, c'est vrai que de dire... Moi, première réaction, c'est de dire « Attends, mais il a rien fait. » Arrête de dire « Corrado, qu'est-ce que tu racontes, là ?» Il a rien fait, donc on arrête de lui dire qu'il a fait quelque chose. Donc, il y a cette tension entre, finalement, des fois où, en fait, effectivement, dans nos vies, il nous arrive des trucs... On n'a rien fait, punaise, pour avoir ces conséquences-là. Et donc, du coup, ça, c'est encore une autre signification, un autre truc. Mais il y a des fois aussi où on a fait. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à aller directement sur « Non, mais tu sais, ça fait partie de ces situations où je n'ai rien fait. » Et en fait, des fois, ça saoule. Mais c'est aussi des conséquences de choix. Et alors après, moi, je vais loin. Puis après, je me dis « Oui, mais mes choix sont conditionnés par la société dans laquelle je vis et dans ce que j'ai vécu comme toi. » Et du coup, je retrouve plein d'excuses. En même temps, c'est des justificatifs. Je trouve ça très, très difficile, en fait, finalement, quand de se dire « Ok, il y a quand même une part de responsabilité que je dois assumer en sachant que Dieu, il m'accompagne, il m'aide. » Et puis voilà, dans ton témoignage très fort, finalement, tu as toute une nouvelle vie finalement avec cette maladie. Et j'ai l'impression que le Seigneur, il t'accompagne, il est fidèle et il te donne la force.
Absolument, absolument. Et je voudrais ajouter une chose. Parce que quand Dieu répond à Habacuc, le juste vivra par sa foi, Dieu a tout simplement dit, ne t'inquiète pas, j'ai trouvé la solution. Tu ne restes pas tout seul avec ces questionnements. Parce que, disons-le, vous avez raison, on a raison. Jusqu'à quel point je suis responsable de ce qui arrive autour de moi. Moi, je ne suis pas responsable. Pourquoi je dois payer? Mais rappelons-nous que nous sommes, disons, toute une longue chaîne à partir d'Adam et Ève qui, quand même, ils ont fait un choix. D'accord?
Puis on n'est pas que des individus, on fait partie d'une humanité.
Bien sûr.
On est aussi...
Mais Dieu a trouvé la solution. Oui. Dieu a trouvé la solution. Et c'est ça important. Et c'est Jésus qui est venu sur terre, ça nous parle.
Donc, on peut parler, je pense, longtemps encore, parce que chacun, je pense, qui a vécu ce moment-là. Donc, on fait des choses exactes. Moi, j'ai tellement d'exemples, mais on peut rester des heures pour parler d'exemples, même simples. Un exercice que je ne fais pas, je me fais mal. Je pense qu'on a tous. Et aussi, quand être parent, je pense qu'on voit aussi les enfants faire ces choix. On leur a dit, ne fais pas ça. Ils le font. La petite phrase, je t'avais dit.
On la connaît, cette phrase.
On connaît, donc c'est quelque chose que je pense qu'on a tous vécu et je pense qu'on voit aujourd'hui, on a vécu encore. Et toi, cher auditeur, est-ce que ça t'a interpellé, ce sujet? Donc, discute, partage avec vos amis, avec tout le monde que tu aimes ou que tu n'aimes pas, de ce sujet-là. Et qu'est-ce que tu fais?
Corrado, tu peux prier avec nous?
Bien sûr. Ah Seigneur, merci beaucoup parce que ta bonté, elle est manifestée à travers les paroles que nous pouvons lire dans la Bible. Les exemples qui sont arrivés jusqu'à nous nous permettent quand même d'avoir un peu clair, si pas tout complètement, quel est le message que tu as préparé pour nous tous. Seigneur, on sait qu'on vit dans un monde qui a mal commencé, qui a fait un choix différent de ta volonté et finalement, nous tous, nous sommes en train de vivre des conséquences. Mais tu, dans ta bonté, tu as trouvé la solution et tu nous as donné une espérance, un espoir qui est extraordinaire. Avec Jésus, tu nous as fait comprendre qu'il y a une solution. Bien sûr, on ne peut pas réparer tous les mal qu'on a fait, mais avec Jésus, avec cette foi que tu nous as donnée, nous pouvons aller vraiment très loin. Et c'est loin, c'est l'éternité. Comme Habacuc a souligné la phrase que tu as dit, le juste vivra par la foi, tu nous invites à avoir une foi solide dans une future que tu es en train de préparer pour nous tous. Et un jour dans le ciel, tu nous donneras des explications parce qu'on on a besoin de cette explication. Et on va s'asseoir à côté d'Habacuc et tu nous apprendras bien sûr qu'est-ce qu'il s'est passé réellement. Merci Seigneur quand même parce que nous pouvons faire confiance à toi. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Bon, allez, on se prépare, on s'échauffe, on déverrouille les épaules, on déraide la nuque, on étire les bras et on se prépare à se mettre en mouvement. C'est parti pour la mise en action. Pour celle-ci, j'ai une petite surprise pour toi. C'est Mildred qui nous propose l'action du jour.
Exactement, Amandine. Tu as bien fait de préparer nos amis qui nous écoutent à se mettre en action. Cher auditeur, comme tu sais, le monde est rempli de règles, d'instructions qui sont là essentiellement pour nous protéger. Des fois, ce sont des choses toutes simples et logiques, mais qu'on ne respecte pas forcément. Voici quelques exemples. Traverser au passage piéton, traverser la route seulement quand le petit bonhomme est vert, respecter les limitations des vitesses. Nous savons tous que le non-respect des règles peut apporter différentes conséquences. C'est sûr que nous n'avons pas toujours le contrôle de tout ce qui nous entoure, mais là où tu peux avoir une influence, essaye d'agir correctement. Fais des bons choix pour que les choses se déroulent de la meilleure manière possible. Cette semaine, je te mets au défi de faire un sondage intérieur et de découvrir quelle est la règle de vie qui te dérange le plus ou encore celle que tu as le plus de mal à respecter. Renseigne-toi davantage sur le sens de cette règle et quelles seraient les conséquences de ne pas la respecter. L'objectif est de comprendre le sens des règles et pas simplement les appliquer sans réflexion. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs instructions qui nous aident à mieux vivre. Ça me fait penser à ce verset qui nous conseille de régler les problèmes avec les personnes avant le coucher du soleil. Ça a l'air anodin, mais on dort tellement mieux quand on a l'esprit libre. Tu peux trouver plusieurs autres conseils de ce style dans la Bible. Dieu t'aime, il t'a laissé quelques instructions pour que tu sois plus épanoui. C'est parti pour l'action.
Notre culte espoir touche à sa fin. Merci Mildred pour ce clin d'œil avec cette action. Je remercie aussi notre invité du jour, Corrado Cosi, pour ce partage que tu nous as apporté.
Ouais, merci
avec
beaucoup.
Plaisir.
Merci. Merci Amandine, merci Stéphane pour ces chroniques toujours pétillantes, portées par votre envie de faire de ce culte un temps édifiant pour nos auditrices, nos auditeurs.
Merci Marina.
Merci aussi.
Et puis c'est porté par cette action que nous allons entrer dans cette nouvelle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau culte d'espoir. Dans l'intervalle, que Dieu se fasse présent dans ton quotidien, qu'il t'apporte sa paix, et qu'il te donne à toi aussi des réponses à tes questions. Ciao, ciao.
Ciao.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.